vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, mais je suis sûre que vous allez aimer le film dont je vais vous parler parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Il s'agit de L'Esprit de la Ruche, un film de Victor Erice. Erice étant certainement un des meilleurs réalisateurs espagnols, au même titre que Carlos Saura ou encore l'a été Buñuel. Malheureusement, il a eu moins de succès et c'est vrai aussi qu'il n'a fait que 3 longs métrages, ce qui est vraiment tout à fait regrettable parce qu'il a une écriture assez exceptionnelle. Alors, le film L'Esprit de la Ruche, c'est un film qui, dans lequel le cinéma est omniprésent. Et c'est l'histoire, c'est une mise en abîme évidemment qui a du sens, car elle montre que le cinéma peut être un révélateur. Et là, en l'occurrence, c'est celle d'une enfant, Anna, mais c'est aussi celle de la réalité de l'époque où se situe l'histoire. Parce qu'en effet, le film se passe en 1940. Il a été tourné en 1973, mais il se passe en 1940, donc nous sommes en plein régime franquiste, juste après la guerre civile. Et en 1973, il est vrai qu'on est encore dans une période un peu tourmentée. On ne peut pas dire que la liberté soit acquise complètement. Mais figurez-vous que les censeurs ont vu le film de Victor Erice et ils se sont dit « Oh là là, c'est trop complexe, trop subtil, je suis sûr que la population comprendra que dalle, donc on va quand même le passer. » Vous voyez comme quoi, finalement, ça a du bon. Hein, les gens abrutis sont finalement quelquefois piégés eux-mêmes parce que, effectivement, le film de Victor Erice, il parle de son pays. C'est une espèce de... On peut dire que le film est comme une allégorie politique aussi, mais très finement faite. Hein, ce n'est pas du prêchi-prêcha qui nous raconte ce qu'on doit penser ou doit dire ou ce qu'on doit critiquer. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que quand même, il y a beaucoup d'Espagnols certainement qui ont dû le remarquer. Alors, Victor Erice, eh bien, il est né en juin 40. Il a fait des études de droit et de sciences politiques et une école de cinéma. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, il a fait très peu de films et c'est bien regrettable parce que son écriture, elle est à la fois poétique, baroque et surtout très intelligente. Voilà. Et L'Esprit de la Ruche, c'est son premier long métrage. En revanche, il y a un autre film qui est aussi une petite merveille. C'est un documentaire qu'il va réaliser en 1992. C'est un documentaire sur un peintre, Antonio López García, et le film s'appelle Le songe de la lumière. C'est un petit chef-d'œuvre qui a obtenu d'ailleurs le prix du jury à Cannes en 92. Et c'est intéressant de noter parce qu'en 92, à Cannes, le président du jury, c'était Gérard Depardieu. Et oui, on croit toujours que c'est la grosse brute épaisse, machin. Non, non, il sait très bien, il est beaucoup plus fin qu'on ne le croit. Et donc, dans ce jury, président donc Depardieu, il y avait aussi Almodovar. Voilà. Et quant à Victor Erice, en 2010, il va faire partie, lui, du jury de Cannes. Et il sera avec, je crois que c'est l'année où le président est Tim Burton. Et là, le palmarès, c'est pas inintéressant parce qu'il ressemble un peu à des gens comme Victor Erice ou encore Tim Burton, puisque le grand prix du jury va être attribué à Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Et c'est Bardem, le comédien, qui va avoir le César, enfin plutôt la Palme, pardon, le meilleur acteur. Et c'est avec, dans un film de Iñárritu, Beautiful. Voilà. Donc vous voyez, ces gens-là avaient compris quand même que Iñárritu serait... un film de qualité, un réalisateur de qualité. Ceci dit, bon, je ne vous parle pas ici de The Revenant, mais à mon avis, ce n'est pas quand même son meilleur. Mais bon, passons. Bien, alors, revenons à L'Esprit de la Ruche. Et il faut savoir que c'est lui qui va découvrir cette jeune comédienne qui s'appelle Anna Torrent, qui est magnifique parce qu'elle a des yeux noirs extrêmement perçants. Et tout le monde la connaît, disons que le public va la découvrir dans le film de Carlos Saura, Cría Cuervos. C'est-à-dire, c'était une enfant au regard très impressionnant. Et d'ailleurs, Victor Erice, quand il va la, parce que Anna dans le film va regarder un film Frankenstein, un film de 1931, et tout d'un coup ça va faire vagabonder son imaginaire. Eh bien, Victor de Ricey a pris une il a filmé à deux caméras, et notamment une qui a pris un peu à l'insu de Anna son regard quand elle regarde Frankenstein sur l'image. Et il faut reconnaître que c'est assez spectaculaire. Et en même temps, au-delà de ça, c'est comme si c'était la première spectatrice devant son premier film, et c'est cette première épreuve, c'est comme une révélation. Anna Thoran, donc, est l'Anna du film, et elle découvre le monstre et pense que l'image est la réalité. Et bien sûr, elle va s'interroger. Donc c'est un film, on pourrait dire, sur l'enfance, le pouvoir du cinéma sur l'enfance, un peu un film sur l'enfance, un petit peu comme on pourrait le dire, du film de Charles Laughton, puisqu'il a réalisé qu'un seul film, La nuit du chasseur. Hein. Mais enfin, là, Anna, c'est une enfance, c'est une enfant, une personne forte, qui ose. Et justement, elle ose parce qu'elle croit à l'imaginaire. Et elle va jouer pour de vrai, alors que d'autres jouent pour de faux. Elle joue pour de vrai, ce qui va lui ouvrir les yeux et lui permettre de comprendre le monde qui l'entoure, et notamment le monstre qu'était ce fascisme, évidemment. Donc je vous propose d'écouter la première séquence du film, le début du film. On y va. Nous sommes donc sur le générique début, L'esprit de la ruche, et à côté du titre qui apparaît, il y a des dessins d'enfants. Alors on voit une caricature du père qui est un apiculteur, alors ça a été dessiné par une enfant. On voit la mère, on voit les deux sœurs, Anna Thoran et Isabelle Telleria, donc la blonde et la brune. On voit un train, toujours dessiné par des enfants, qui est évidemment très important dans le film. C'est le voyage, puis c'est de là qu'arrivera... Il y a aussi un chat, très drôle, là encore dessiné par les enfants. C'est presque une bombe. Et en même temps, dans le film, c'est un chat noir. Et là, on voit évidemment la maison qui est très importante où se réfugiera un soldat. Une maison délabrée. Et puis la montre du père qui lui, elle aussi, est un objet très important parce que c'est Anna qui viendra la voler à son père d'une certaine façon et l'offrir au soldat. Et là, ça commence, dernier dessin, Il était une fois. Seulement, la réalité arrive tout de suite, nous sommes en Castille et en 1940. Alors, je fais simplement une pause pour dire que donc, on commence avec le début du film pose le décor et les personnages qui entourent Anna, donc son père, on les a vus en dessin. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur le titre, qui semble bizarre quand même, L'esprit de la ruche. Alors, L'esprit de la ruche, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Victor Ricey dans un interview qui le dit très clairement. Il a utilisé ce terme, il l'a pris dans un magnifique texte de Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck est un Belge qui est mort en 1949, je crois, un prix Nobel de littérature en 1911. On le connaît surtout avec son œuvre très poétique, L'oiseau bleu. Vous savez, oiseau bleu, couleur du temps, voilà moi promptement, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, il a écrit un livre qui s'appelle La vie des abeilles. Et oui, Maeterlinck s'est passionné pour les abeilles. Il les a observées, contemplé, mais d'une contemplation extrêmement créative. Et son questionnement était, quand il voyait ces abeilles s'affairer dans ces ruches, dans ces alvéoles, il disait, mais comment, avec des moyens apparemment inférieurs et une intelligence apparemment inexistante, l'abeille a atteint un stade de perfection sociale auquel l'homme n'oserait même pas aspirer pour sa propre espèce. Comment parvient-il à cet idéal collectif ? L'instinct serait-il le seul responsable ? Pour Maeterlinck, cette observation, ça a été une réflexion sur la connaissance. Et pour répondre à ces interrogations, il s'est dit que peut-être il y avait un esprit, l'esprit de la ruche, une sorte de génie, Ce serait l'esprit de la ruche qui réglerait la vie des abeilles. Alors évidemment, ça ne pouvait qu'intéresser Victor Hérisset, parce que cette idée circule dans la ruche de Victor Hérisset, c'est-à-dire cette ruche étant la famille, étant l'Espagne, et puis le génie étant pour Anna le cinéma. Une ouverture à l'imaginaire qui va régler sa vie, évidemment. Donc, on entre dans un univers d'enfants, avec des dessins d'enfants. Nous sommes en Castille, en 1940, et vous allez voir quels sont les premiers mots du film, parce que c'est quand même assez spectaculaire. C'est un camion qui rentre dans le petit village. Un village sur lequel, sur la mur, il y a une croix fasciste. Les premiers mots, ce sont des enfants qui les prononcent, c'est « le film est arrivé, le film est arrivé ». Et le film s'arrête devant une maison basse, qui est comme une maison, avec une grande porte centrale, deux petites fenêtres sur le côté, les deux yeux et la bouche. Et on a l'arrière-plan du camion qui lui aussi est comme un cadrage dans un cadrage. Et les enfants sont là très excités à l'idée de sortir le film, la bobine, la bobine. Regardez les bobines. Et en effet, on voit un homme qui sort avec toutes les bobines 35 mm pour projeter un film. Laissez-moi passer, dit un homme qui veut essayer d'arriver jusqu'au camion. Et il y a tellement d'enfants autour qu'il a du mal. Comment vous le passez? Quand ça? Alors on lui dit un film magnifique. Un film d'horreur? Un film de cow-boy? C'est un très beau film. Il y a des Indiens? C'est un film magnifique. Le plus grand, vraiment. Énorme. Un film, chapeau. Alors là, vous avez... L'ancien garde-champêtre, une femme assez incroyable avec sa trompette.
À las 5, habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y dos reales los menores.
Voilà, et donc c'était évidemment la garde-champêtre qui annonçait le film. Et là, on entre dans la salle tout de suite et sur le mur, et peint un grand cadre cinéma. C'est là qu'on va projeter le film. Voilà. Donc tous les enfants arrivent, les femmes arrivent avec leur chaise, leur chaufferette pour ne pas avoir froid aux pieds. C'est un splendeur, dit-le, évidemment, celui qui apporte le film, voilà. Et alors, les films, comme je vous l'ai dit, c'est donc Frankenstein, un film de 1931, et qui va montrer, évidemment, cette bête monstrueuse qui a été créée par son mentor, son docteur. Et alors, c'est intéressant, parce que comment le film va commencer à être projeté. Et puis, tout d'un coup, ça va être monté cut avec un personnage qui, derrière un masque, on se dit, tiens, ça doit être Frankenstein, mais non, pas du tout. C'est le père qui a mis un masque parce qu'il est en train de s'occuper de ses abeilles. Voilà, il est apiculteur à 16 heures. Et donc, c'est un raccord, évidemment, qui a du sens parce que le père fait un peu peur, c'est l'autorité, c'est tout ça, quoi. Et le film va balancer entre la nuit et des images donc très sombres et grises et la luminosité couleur du miel. Ça, vous voyez, ça tombe sous le sens du jour. Et surtout dans l'intérieur familial. L'intérieur familial, quand je vous disais que c'était une ruche, oui, c'est une sorte de cocon, de ruche, où travaillent d'autres abeilles. Et cette métaphore est visible jusque dans le décor des fenêtres, dont le grillage et la couleur évoquent avec précision des alvéoles, les alvéoles des ruches, dans lesquelles est déposé le miel, qui est évidemment la nourriture idéale. Voilà. Alors, ce sont des fenêtres d'autant plus remarquables qu'elles interviennent à des moments très précis. Et elles soulignent, il faut bien le dire, l'aspect métaphysique du film, notamment par exemple quand le père revient donc de s'être occupé de ses abeilles, il rentre chez lui, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est pas du tout un paysan, on aurait pu le croire, c'est un apiculteur, non, il rentre chez lui, il est dans une maison, son bureau est plein de livres, c'est un intellectuel, un peu comme Maeterlinck l'avait fait à propos des abeilles évidemment. Et alors il s'installe et derrière sa fenêtre on entend le son du cinéma. Et donc en off, on entend Attention, il est quand même dangereux, donc évidemment on parle de Frankenstein, mais plus loin on entend encore « N'avez-vous jamais voulu voir, au-delà des nuages ou des étoiles, comment poussent les arbres, changent les ombres ?» Et enfin, un dernier mot, et d'ailleurs là le père est sorti, a ouvert la fenêtre pour mieux écouter, et on entend en off, venant toujours du cinéma, donc toujours le pouvoir du cinéma, on entend « Réveillez-vous et voyez la réalité ». Donc c'est presque une voix venue de l'au-delà. Une voix off, c'est celle du film, évidemment, si on veut être pragmatique, mais en même temps, elle arrive certainement au bon moment. Voilà. Alors, dès que Anna va voir Frankenstein, évidemment, elle va se poser des questions très bizarres. Donc, je vous propose, tout de suite, elle va demander à sa sœur. Voilà, là, c'est donc, là, vous entendez le film qui se projette. C'est le film où il y a une gamine, en effet, qui dit à son père... est-ce que je peux aller avec toi ? Non, non, joue avec ton chaton. Au revoir, papa. Donc là, on est dans le film. Et vous avez évidemment des contre-champs où on voit Anna qui regarde de tous ses yeux ce film. Là, on est toujours dans le film. La petite gamine, donc dans le film noir et blanc de Frankenstein, vient se mettre au bord de la plage. Enfin, pas de la plage, mais de la rivière. Et Frankenstein arrive. Là, on voit la photo d'Anna qui est... tétanisé d'en train de regarder ce film, de voir ce monstre. La gamine dans le film, Frankenstein, vient au devant. Je m'appelle Maria. On voit un gros plan sur... Veux-tu jouer avec moi ? Elle dit ça à Frankenstein. Elle lui prend la main. Et elle l'amène, cette espèce de monstre énorme, elle l'amène au bord de la mer, au bord de la rivière. Elle a des fleurs. Elle lui offre une fleur. On voit toujours la tête d'Anna en train de regarder ce film avec insistance. Là, on a un gros plan de Frankenstein qui se met à genoux pour être à la hauteur de la petite fille. Il la regarde beaucoup. Et elle lui offre des fleurs. Celle-ci est pour toi, celle-là pour moi. Ils font des échanges de fleurs. Tout a l'air d'aller bien. Et elle lance les fleurs qui voguent comme ça sur la mer, sur l'eau. Seulement Frankenstein, tout d'un coup, voit ses mains, regarde la petite fille. Et là, Victor Erice a choisi de nous montrer la salle de cinéma de l'extérieur. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et là, on entend un vélo, mais c'est la mère, Teresa, qui revient chez elle. Dans une propriété tout à fait avec une architecture superbe. On revient dans la salle de cinéma, vous l'avez entendu au son. Et là, on voit le père qui tient dans ses bras la petite fille qui est morte. Alors évidemment, là, on a contre-champ sur les gamins qui sont un peu tétanisés. Toujours gros plan d'Anna et de sa sœur Isabelle. Qui regarde cette image. Isabelle. C'est Anna qui parle, Isabelle. Pourquoi l'a-t-il tué ? Isabelle ne répond pas. Pourquoi l'a-t-il tué ? Isabelle dit : je te le dirai tout à l'heure. Et les voilà qui rentrent chez elle. Évidemment en hurlant parce qu'elles ont eu très peur. Frankenstein, Frankenstein. Et elle hurle. Alors évidemment la suite est à mon avis très intéressante aussi. C'est pour ça que je préfère rester sur le film. Parce que donc elles vont aller se coucher. Là entre parenthèses on s'aperçoit qu'il y a quand même... elles font la prière avec les parents. Enfin tout ça est bien en place. Donc là on les entend en off. On est toujours sur la vision de la maison. Les fenêtres s'éteignent. Et elles vont faire leur prière avec... elles sont toutes les deux dans deux lits jumeaux. Et au centre, il y a, sur une table de nuit, une bougie et une vierge. Bougie qu'elles vont allumer pour pouvoir parler. Et donc le dialogue, évidemment, est très intéressant parce qu'il va tout dire à la fois du cinéma et de l'impact que le cinéma peut avoir sur les enfants. Donc là, on est à l'intérieur de la maison, dans la chambre. C'est Anna qui allume la bougie. Et on aperçoit qu'il y a un petit singe d'un côté et la Vierge Marie de l'autre.
Isabelle.
Isabelle, elle l'appelle.
What do we look at?
Dis-moi ce que tu allais me dire. À propos de quoi? À propos du film. Pas maintenant, demain. Maintenant, tu as promis. Pourquoi a-t-il tué la fille? Et pourquoi s'est-il fait tuer? Tu ne le sais pas, tu es une menteuse. Il ne s'est pas fait tuer, il n'a pas tué la fille. Et comment le sais-tu? Comment sais-tu qu'il ne meurt pas? Parce qu'au cinéma, tout est pour de faux. Ce sont des trucages. En plus, je l'ai vu vivant. Où? Dans un endroit que je connais près du village. Les gens ne peuvent pas le voir. Il ne sort que la nuit. C'est un fantôme? Non, c'est un esprit. Comment l'esprit dont parle Doña Lucia? Oui, et des esprits, les esprits n'ont pas de corps. C'est pourquoi on ne peut pas les tuer. Mais il en a bien un dans le film. Il avait des bras, des pieds. Il avait tout. Il se déguise pour sortir dans la rue. Mais s'il ne sort que la nuit, comment peux-tu parler avec lui? Je t'ai dit que c'était un esprit. Si tu es son ami, tu peux lui parler quand tu veux. Ferme les yeux et appelle-le. C'est moi, Anna. C'est moi, Anna. Voilà, alors évidemment, c'est intéressant parce que c'est un chant contre chant, tout est dit. C'est le point de départ de ce qu'on va entendre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, dans ce silence, elles sont là, en train de réfléchir à ce qu'elles viennent de dire, et on entend des bruits de pas. Si, elles appellent l'esprit, alors on croit que c'est l'esprit, donc on entend les bruits de pas passer dans l'image en synchrone, mais c'est le père qui est au-dessus et qui marche dans son bureau. Voilà. Donc, ça joue un petit peu, et ça entraîne aussi une frayeur, évidemment, vis-à-vis des enfants. Alors, on remarquera aussi que le décor, que d'abord les gamines chuchote. Et c'est vrai que c'est un film où la parole est très... Il y a très peu de paroles. On joue sur le regard, incontestablement. On joue sur la lumière. Mais le verbe est beaucoup moins présent. Les gens, en revanche, écrivent. Le père écrit, la mère écrit. Même Anna, à un moment, on la voit, elle tapote sur la machine à écrire de son père. Je ne sais pas ce qu'elle écrit, mais enfin bon, elle tapote en tout cas. Voilà, et on parle très peu. En revanche, vous l'avez vu, là, ce dialogue entre les gamines, c'est ce qui est très beau aussi, c'est qu'elles chuchotent. En revanche, quand tout d'un coup, il y a un drame et que, par exemple, notamment à la fin, Anna s'aperçoit que le soldat, parce qu'elle croit que, comme elle va dans cette maison un peu délabrée où sa sœur Isabelle a dit qu'elle avait vu un esprit, en réalité, elle a raconté n'importe quoi. Mais il se trouve qu'entre-temps, un soldat s'y est réfugié. Donc, quand Anna voit le soldat, évidemment, pour elle, c'est un esprit. Mais quand ensuite, le régime franquiste l'a rejoint et ils ont tué le soldat, quand Anna revient dans la maison délabrée, qu'elle voit du sang, elle comprend mieux que, vous voyez, ça lui permet de comprendre que tout d'un coup, s'il y a du sang, c'est que peut-être le personnage n'était pas qu'un esprit, il avait un corps. Voilà, donc tout ça est évidemment très, très, très complexe et en même temps, c'est ce qui fait la beauté parce que c'est fait très distillé, d'une façon très fine. Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que tout est en chuchotement, sauf quand, évidemment, Anna a disparu. On entend, c'est presque, une musique. Le père appelle, la mère appelle, Isabelle appelle, Anna dans le... Voilà, donc, et donc c'est, on pourrait presque dire que c'est un film où il y a cri et chuchotement, évidemment. Alors on s'aperçoit aussi que quand on voit ce film, on peut dire que Carlos Saura quand même s'est bien, a été bien influencé par ce film, parce que notamment dans ce film, Teresa, la mère de Anna, elle joue du piano, mais d'une façon très furtive, sur un piano qui est à peine accordé, et donc il y a un plan, on voit juste un gros plan de sa main, puis son visage, et puis tout d'un coup, elle est là, debout, elle ferme, elle a joué debout, hein, donc vous voyez, c'est très furtif, elle ferme le capot, enfin, je sais pas comment on dit, du piano, et elle sort, et tout d'un coup, la pièce reste vide. Et souvenez-vous, dans Cria Cuervos, la mère de Anna, qui était jouée par Géraldine Chaplin, pardon, jouait du piano également. Elle aurait même dû être une grande concertiste, mais à l'époque, les femmes, elles étaient là pour faire des mômes, faire la cuisine, et basta, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de voir la correspondance. Hein. Et de la même façon que les photos étaient aussi très très importantes, elles existent dans Cria Cuervos et elles existent aussi dans le film de Victor Erice. Voilà, alors on s'apercevra aussi que dans le film il y a beaucoup de chemins. Le chemin, ben oui, le chemin qu'il faut suivre pour vivre, bon, etc. C'est évidemment une thématique très intéressante. On s'aperçoit aussi que Teresa, on la voit partir à vélo dans une grande solitude extrême sur un chemin qui zigzague comme ça, avec des paysages à perte de vue. On s'aperçoit aussi que Anna et Isabelle, leur grand jeu, c'est d'aller poser l'oreille sur les rails de chemin de fer pour écouter si le train arrive et partir évidemment qu'au dernier moment, toujours pour braver la mort, parce que c'est vrai aussi que la mort est omniprésente dans le film. Elle est dans le film Frankenstein, déjà, avec la gamine qui meurt tuée par Frankenstein, mais elle est dans le sang que Anna découvre dans la maison. Elle comprend qu'on a tué le soldat. Il y a aussi un passage très intéressant parce que le sang, c'est à la fois objet de mort et de vie. Hein. Notamment Isabelle, qui a des instincts de mort, puisqu'elle prend le chat. D'ailleurs, c'est un chat noir, donc bestiaire un peu maléfique. Elle veut l'étrangler et elle se fait, évidemment, le chat se rebelle et la griffe profondément sur le doigt. Et donc, le sang coule. Et alors là, il y a un plan... Très sexuelle, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle, dans un petit miroir, elle vient poser cette goutte de sang sur la bouche. Et donc, dans le petit miroir, on ne voit qu'en très gros plan la bouche sur laquelle elle pose la goutte de sang. Et voilà, donc c'est en même temps, ça c'est le sang de la vie, menstrue, machin. Enfin bon, évidemment, il y a toute une symbolique autour de ce sang qui est la vie aussi, quoi, évidemment. Donc, il y a aussi le... Il y a tellement de choses à dire que je vais peut-être m'y perdre, mais bon. Bon, je trouve en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Victor Erice raconte les histoires. Il a l'art de manier l'ellipse. Vous me direz que le montage, c'est l'art de l'ellipse. Oui, mais là, quand il veut montrer que... Anna va voir le soldat, va lui donner une pomme, un manteau, enfin, etc., etc. C'est, si vous voulez, tout d'un coup, la scène est presque coupée. Enfin, on n'attend pas la fin avant de passer sur une deuxième arrivée de Anna pour montrer que les choses se précipitent. Et en même temps, cette ellipse, cette absence de temps réel... contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin si on peut le penser, mais bon, donne beaucoup de force à ce côté répétitif, évidemment. Et de la même façon qu'à un moment, donc on voit plusieurs fois Anna aller dans cette maison délabrée, on sait qu'elle va voir le soldat, et puis à un moment, il y a un plan fixe, on est dans la nuit, le plan reste immobile, ne bouge pas, mais on entend des déflagrations et on voit juste dans la nuit des étincelles pour montrer, et c'est donc évidemment, tout le monde a compris, ellipse qui dit long, vous voyez comme quoi on n'a pas besoin de mots, on comprend que le soldat a été tué, voilà. Donc c'est un film, évidemment, vous l'avez compris, je pense que peut-être on arrive un peu en fin d'heure. Stéphane, où est-ce qu'on en est? C'est bon? On a encore du temps? Non, pas beaucoup, hein. Voilà, c'est ce qui me semblait. Alors, donc comme on arrive à la fin de ma petite demi-heure... Tout à l'heure, on a entendu cette séquence qui était capitale quand la sœur Isabelle lui dit « Si tu appelles l'esprit, que tu dis « c'est moi Anna, il va arriver ». Et bien évidemment, la fin du film, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que après bien des péripéties, mais que je ne vais pas vous raconter, il faut que vous voyez le film, eh bien Anna, dans la nuit, se relève, elle va ouvrir la fenêtre, une image d'ailleurs superbe, avec une lumière, oui, presque divine, c'est la lumière de la lune, donc un peu blafarde, et en même temps c'est l'aspect féminin et tout ça qui ouvre, et donc elle, on entend les bruits, on voit des ombres presque expressionnistes qui sont sur les murs, sur les rideaux, et elle appelle, et elle dit « c'est moi, Anna », c'est-à-dire, non, elle n'appelle pas, mais en revanche, dans sa tête, en off, on entend les phrases qu'on a entendues tout à l'heure d'Isabelle. Et donc, elle pense à ce qu'elle lui a dit Isabelle, et elle le fait, donc on la voit fermer les yeux, et le film se termine comme ça. Donc c'est un film qui est plein d'enseignements, qui ose, dans son écriture, comme dans son propos, l'esprit de la ruche, c'est une forme, au fond, c'est un hymne à la puissance de l'imaginaire, considéré d'ailleurs comme une forme de résistance et de rébellion contre le temps et l'histoire. Merci Stéphane. Et bien cette émission, ben non, elle n'est pas encore rediffusée, mais elle va bientôt l'être quand même, non? Oui, ça va être bientôt diffusé, on vous le dira. Et donc à mercredi prochain.